il y avait une difficulté dans le grand échiquier, c'était que c'était un en direct, deux, il fallait jouer, Rachmaninov, Ravel, et puis tous les autres, il fallait aussi parler et être dans le même mouvement. Et puis il fallait aussi convaincre les gens qu'on pouvait tout d'un coup associer Jean-Philippe Collard à Brassens, Brassens à Pavarotti, Pavarotti à Karajan, et que tout cela pouvait faire une famille. Mm-hmm. C'était la famille de ceux qui donnaient aux téléspectateurs des raisons de s'émouvoir un peu plus.
Donner aux téléspectateurs des raisons de s'émouvoir un peu plus, voilà qui fait une vie, voilà qui fait une carrière. Un invariant de la télévision publique française, depuis maintenant 50 ans, le grand échiquier. Le producteur, Pierre-Antoine Capton, l'a ressuscité, Anne-Sophie Lapix l'a présenté sur la 2, en grande pompe et en direct. Année électorale oblige, un autre visage du petit écran prend le relais. Et ce sera sur la 3, comme pour s'adresser d'abord à ceux qui ont regardé le grand échiquier d'antan, qui s'en souviennent que ça a marqué comme une sorte de dialogue dans le temps entre la télé d'aujourd'hui et celle d'hier, comme une sorte de mise en abîme de cette émission qui s'est toujours attachée à rassembler les générations, à réconcilier les classiques et les modernes, le patrimoine et la nouveauté.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Claire Chazal.
Bonjour Sonia de Villers.
Voilà, donner des raisons de s'émouvoir un petit peu plus quand on regarde la télévision. Oui, ça fait envie et oui, c'est une mission quand on travaille pour le service public. Le Grand Échiquier, lundi sur France 3, en première partie de soirée, en prime time, comme on dit. On va en parler avec vous Claire Chazal. Il se trouve que vous arrivez dans ce studio. En fait, c'est la deuxième fois que ça nous arrive à toutes les deux, que je vous invite pour une actualité qui vous est propre, parce que vous avez votre vie de femme, votre carrière de journaliste, et qu'il se trouve que nous arrivons au lendemain de nouvelles révélations dans ce qui est devenu l'affaire PPDA, dimanche sur TF1, dans 7 à 8, et hier dans Libération. Alors, ce matin, je ne m'adresse pas à l'ex-femme de Patrick Poivre d'Arvor, parce que d'abord, je l'ai déjà fait à ce micro, puis je ne vois pas pourquoi on vous renverrait sans cesse à ce statut. En revanche, j'aimerais m'adresser à l'ancienne journaliste de TF1 que vous êtes, que vous étiez à l'époque des faits, et savoir si vous comprenez comment ces femmes, comment des femmes ont pu se sentir à ce point empêchées de parler dans une grande machine comme était la grande machine TF1 à l'époque.
Moi, ce que je peux dire, c'est que d'abord, je ne mettrai évidemment aucunement en cause la parole de ces femmes. Je n'ai aucun moyen de le faire. Et si elles estiment devoir parler aujourd'hui et pouvoir surtout le faire, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, eh bien c'est peut-être un progrès et en tout cas toute parole est recevable. Mmh. Après, la chose que j'ai dite, et d'ailleurs grâce à vous et merci au tout début, c'est que l'homme qu'elles décrivent, ce n'est pas celui que j'ai connu, ouais. Que j'ai bien connu et personnellement et professionnellement, et que donc celui que j'ai connu sans doute aimait séduire, aimait convaincre, aimait avoir une relation avec les femmes forte, permanente, c'est ce qui l'intéressait, mais il aimait surtout les convaincre, je crois, et ne pas les forcer, je l'ai déjà dit. Ensuite, bien sûr que Patrick a été un immense professionnel de la télévision, je crois qu'on ne peut pas l'oublier, c'est un très grand journaliste que j'ai toujours admiré, je crois qu'on avait à peu près la même façon de présenter le journal, la même conception, et ça reste la même aussi, le même appétit pour la culture, la même envie de découvrir les autres, la même curiosité intellectuelle, je crois qu'il l'a gardée, et surtout j'ai vécu, j'allais dire, pendant un certain nombre d'années à TF1, dans une grande maison qui bien sûr était un
forcément,
empire.
Claire Chazal, TF1 et dans cette grande maison, dans cet empire. Absolument, dans cet empire où aujourd'hui, évidemment, il y a tout un tas de journalistes qui ont envie de soulever, d'entrer un peu dans les coulisses de cet empire, d'essayer de ressusciter la grande machine extrêmement puissante que c'était pour essayer de comprendre comment des jeunes femmes, des jeunes journalistes, des femmes, tout simplement, ont pu s'y sentir à ce point en réalité étouffées.
Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai jamais senti ça. Voilà. Mmh. Et que je ne suis pas la seule. Que ça ne m'est jamais revenu aux oreilles. Je dis la vérité, là. Je ne suis pas la seule. J'étais bien sûr, j'allais dire, entre guillemets, et dans l'état-major de TF1.
Une parce femme que, de pouvoir.
Oui, j'ai présenté ce journal qui était très important, enfin les 5 journaux du week-end, et puis j'avais aussi le titre de directrice adjointe de la rédaction.
Mais c'était un pouvoir immense.
C'était un pouvoir, c'était le pouvoir d'un journaliste en vue, enfin exposé, qui avait un média puissant à
Absolument.
Sa disposition, dans une forme de liberté aussi éditoriale et intellectuelle, je tiens à le souligner. Mais un pouvoir, et une chaîne puissante qui avait beaucoup de moyens, qui restait puissante d'ailleurs, et très regardée, en tout cas sur les journaux, mais qui avait sans doute plus de moyens à l'époque. Bon, voilà, il y avait un état-major, on le connaissait, les Patrick Lelay, Étienne Mougette, Robert Namias, j'étais parmi eux, et je n'ai jamais entendu parler de une quelconque peur d'une femme ou d'une jeune fille dans TF1. Voilà, je le dis, et c'est la seule chose que je peux dire. Ah bon, ça c'est...
Le Grand Échiquier débute en 1972,
ah
Claire
oui,
Chazal.
Il y a 50 ans tout juste,
ouais,
enfin, en
ça.
Janvier
en
prochain.
En janvier,
ouais.
Vous aviez ouais. 16 ans. Et je me suis posé la question, dans quel milieu avez-vous grandi? Et même peut-être plus largement, est-ce que la télévision a compté dans votre éducation?
Alors j'avais peut-être 14 ans à ce moment-là, mais ouais. Enfin, c'est pareil.
La
télévision, non, mais c'est... la télévision était à la fois, j'allais dire, encadrée. Par mes parents, qui étaient des intellectuels au sens où ma mère était professeure de lettres et mon père était devenu haut fonctionnaire à force de travail par le concours interne, parce qu'ancien instituteur. Donc les livres étaient très importants. Et la télévision, en ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire quand même porteuse de connaissances, d'émotions aussi, d'émissions un peu exceptionnelles, eh bien nous la regardions, bien sûr. J'aimais La Piste aux étoiles, par exemple, parce que c'était divertissant. J'aimais certaines séries comme Zorro ou Thierry Lafronde ou Les Compagnons de J.U., etc. J'ai pu les regarder. Et surtout, nous regardions en famille,
évidemment,
Le Grand Échiquier, ah, oui. Discorama de Denise Glaser, les émissions sur la peinture, les grandes dramatiques, car il y en avait, évidemment. Il y a eu Les Perses, je me souviens de Don Juan avec Michel Piccoli. Nous regardions. Et Le Grand Échiquier,
mais
ensuite,
quand même, l'ORT. Enfin, quelle extraordinaire, machine à transmettre et à apprendre. Quelle extraordinaire machine d'éducation populaire. Vous avez un souvenir comme ça, très très jeune, du Grand Échiquier? Il y a une séquence de télé qui vous aurait
Alors,
marqué
Moi, ce que disait Jacques Chancel en tout début de l'émission, et vous aviez bien eu raison de passer cet extrait, d'abord, il résume la quintessence du Grand Échiquier, c'est-à-dire l'émotion, la multiplication des genres, des générations et des registres culturel. C'était ça sa force, et c'est ça qui était merveilleux. D'abord, moi, je me souviens très bien de ça. Je me souviens de l'émission qu'il avait consacrée à Brassens, et je me souviens de ce formidable duo qu'avaient formé à l'époque les deux jeunes Jacques Weber, Francis Huster. Je les revois encore, ils sortaient du conservatoire. L'un était prix d'excellence, Jacques Weber, l'autre premier prix. C'était un peu concurrent et ami, et ils avaient interprété des scènes à deux. Ils étaient très beaux et jeune, très jeune.
Et Chancel ne s'est pas trompé, puisqu'ils ont eu d'immenses carrières.
Jacques Chancel ne s'est pas trompé. Et c'était souriant, c'était long, on prenait le temps. Puis après, le piano s'installait, parce qu'on était en direct, mais qu'on n'avait pas peur de montrer les choses. Et au fond, de montrer l'arrière, de l'envers du décor. Et c'était Alexis Weissenberg qui s'installait. C'était Frédéric Lodéon. C'était évidemment... Rostropovitch, enfin...
Vous avez choisi de diffuser... Une séquence tournée à l'Opéra de Paris, Une étoile est née.
Nous avons tous eu le plaisir ce soir de voir une magnifique danseuse qui nous a montré l'étendue de son talent. C'est pourquoi, sur proposition d'Aurélie Dupont, directrice de la danse, j'ai l'immense plaisir de nommer mademoiselle Seoun Park, danseuse étoile.
Je me suis posé la question, vous qui aimez tant la danse et qui l'avez tant raconté en réalité, par vos écrits, dans vos interviews, et même qui lui avez fait une place à la télévision, et la danse n'a pas tant de place que ça à la télévision, vrai. Même très peu de place. Alors évidemment, ça fait partie des traditions du Grand Échiquier. Oui. Je me suis demandé si vous aviez un petit peu poussé le curseur. Alors, parce que la danse est très présente.
Très honnêtement, je dois le dire, j'ai pas eu à le faire. J'ai essayé de, enfin, bien sûr, de m'emparer, non, de présenter cette émission un peu à ma façon, avec évidemment des choses auxquelles je tenais beaucoup. Mais il y avait cette tradition-là, de toute façon, même quand le Grand Échiquier a été repris, et c'est très bien. Donc je n'ai pas, non, j'avoue que on m'a proposé toutes ces ces prestations. Donc nous avons eu à la fois l'Opéra de Paris, effectivement, avec Aurélie Dupont, qui était là, qui est là, et qui présente sa saison, mais surtout cette nouvelle étoile, Seon Park, qui est sud-coréenne, merveilleuse.
C'est la première, hein, la première étoile asiatique.
Voilà. Elle est venue en 2011, je crois, de sa Corée du Sud. Elle est intégrée dans le ballet, puis elle est évidemment merveilleuse. Elle était déjà une étoile dans son pays. Et elle devient en France, et c'est vrai qu'elle a une... Et elle a dansé pour nous un pas de deux. Et très jolie, d'un chorégraphe qui s'appelle Frédéric Ashton, que moi j'ai vu après à l'opéra. Et évidemment, on était très heureux. Et quand on repasse cette archive que vous avez passée, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, bah évidemment, tout le monde communie dans cette émotion. La nomination d'une étoile sur scène, parce que maintenant, c'est rideau levé devant le public, alors qu'à l'époque, c'était...
Et c'est une surprise.
Et c'est une surprise. Mmh. Mais souvent,
Et ça a fait pleurer tout le monde sur le plateau,
ça, c'est
du gré
sûr.
Des gens qui... Tellement
tout le monde.
Ce genre
Aurélie
de séquence.
Dupont, la première, et elle l'a dit.
Est incroyable. Poil de carotte.
Ah oui.
Alors ça, c'est la signature du Grand Échiquier, Claire Chazal.
Oui.
C'est vraiment la signature du Grand Échiquier. C'est-à-dire que le sommet du Grand Échiquier, c'était Pavarotti et Placido Domingo. C'était
Bien
des
sûr.
Émissions qui étaient prévues 2 ans à l'avance. Le dernier Grand Échiquier de Chancel, c'était avec Ruggiero Raimondi. Quand Jacques Chancel ressuscite le Grand Échiquier, il fait revenir Ruggiero Raimondi. Et puis quand Anne-Sophie Lapix reprend la main des années
Bien
après, ce sera avec Roberto Alagna. Mmh. Et évidemment... C'est intéressant parce que, au fond, l'art lyrique et l'opéra, ça n'a pas beaucoup évolué, peut-être, depuis les années 70, depuis le premier projet de Chancel. C'est-à-dire que ça reste le symbole d'une culture élitiste, difficile d'accès. Et que si la télé ne s'en empare pas, au fond, c'est difficile d'aller à l'opéra.
Alors oui, il y a toujours une timidité à aller à l'opéra. Je le comprends très bien. Dieu merci, il y a des grandes divas qui nous attirent et qui sont populaires. Roberto Alagna, par exemple, en est le signe. Évidemment, le propre du Grand Échiquier, c'est de les faire venir.
Et de les offrir
en plateau. Et de leur proposer, que ce soit des grands pianistes ou des grands chanteurs. Ce qui a évolué dans le temps, je crois, à l'Opéra de Paris, par rapport à ces années-là, où, évidemment, on admirait ces Pavarotti, ces Ruggiero Raimondi, qu'on adorait. Ce sont les mises en scène. C'est la façon de présenter un opéra. Ça, c'est devenu, effectivement, plus audacieux, plus exigeant, et surtout à Paris. Et ça, c'était beaucoup plus moderne. Ça peut dérouter, mais c'est très intéressant. Et grâce au ciel, l'Opéra de Paris permet de découvrir ces metteurs en scène, qui sont souvent des metteurs en scène de théâtre, d'ailleurs, formidables. Mais le Grand Échiquier, donne la parole et permet de découvrir et de rendre populaire cette musique, qui est évidemment qui est d'abord intemporelle, et puis qui, je dois le dire, permet en France à des talents et à des jeunes chanteurs lyriques, des jeunes, enfin qui sont devenus moins jeunes, mais enfin cette génération, elle est très riche, elle offre énormément de possibilités. Il faut les découvrir, les Sabine de Vielle, les Stanislas de Barberac, les Florian Sempé, ils viennent sur notre plateau parce qu'ils sont merveilleux, et maintenant ils sont tous sur toutes les scènes.
Alors, il y a eu un moment, un échange dans l'émission assez intéressant entre Ibrahim Malouf et Zabou Breitman, où l'on parle d'improvisation.
Ah oui.
La contrainte est forte plus le plaisir de la petite improvisation minuscule est merveilleuse, mais c'est...
Il faut la maîtriser aussi.
Quand on dit improvisation, c'est pas tout et n'importe quoi,
oui,
c'est
pas fait, faire n'importe quoi.
C'est parce que le cadre est fort que c'est là qu'on peut trouver de la liberté.
Et puis il y a une idée aussi derrière l'improvisation, c'est que le chaos, enfin le moment où il n'y a rien qui sonne bien, cette cacophonie... peut donner naissance à quelque chose que tu n'as pas prévu.
Un malaise.
Voilà, et ça c'est... Non, mais c'est vrai.
Un gros malaise.
Oui, mais ce malaise, ça veut dire
là,
qu'il
c'est
est...
Daniel Auteuil. C'est Daniel Auteuil qui a tellement d'humour et qui est tellement heureux de chanter.
Et alors, ça m'a amusé parce que, évidemment, là, je parle à la journaliste qui a piloté pendant des années la grand-messe, le JT. Quoi de plus minuté, de plus serré, de plus contrôlé qu'un journal télé? Aucune place à l'improvisation.
Peu, sauf les soirées électorales et les... Bon, bien sûr.
C'est ça. Et est-ce que vous diriez la même chose à la télévision, parce que c'est un média très contraint, c'est un média très lourd, que finalement plus les choses sont prévues, cadrées, serrées, et plus il peut se dérouler.
Alors ça, le Grand Échiquier en est un exemple absolument parfait. Nous avons enregistré bien sûr les émissions, ce n'est plus en direct.
Alors pourquoi ce n'est plus en direct?
Pour des raisons, je crois, d'économie, tout simplement. Bien sûr que le direct, c'est magnifique, évidemment, et moi j'aurais adoré.
Parce que ça permettait ce que vous racontiez en début d'émission, c'est-à-dire tous ces moments d'hésitation,
puis l'électricité, les peurs, les hésitations qui rendent les choses humaines, donc beaucoup plus intéressantes, enfin beaucoup plus, un peu plus intéressantes. Bon. Et c'est ainsi, nous avons enregistré dans les conditions du direct, c'est-à-dire que nous approchons à peu près de la durée qui va être diffusée, donc les montages est très faible au fond, c'était ça le souhait.
Mais ça
donc...
veut dire que les artistes ont enregistré leurs prestations dans les conditions du direct, ou alors
ah
ils
oui,
ont
tout
pu
à fait, nous
faire,
avons...
refaire, reprendre.
Alors, on peut refaire, on ne va pas mentir aux téléspectateurs, on peut refaire, et par exemple, Lang Lang qui nous a proposé les variations Goldberg, et on était très heureux de l'avoir sur le plateau... Pas à cause de lui, mais pour un problème de son, il les a refaits. Donc c'est ainsi. Mais ça n'empêche pas que c'est extrêmement minuté, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que derrière le dialogue et l'improvisation apparente, il y a une écriture, enfin moi j'écris toute l'émission, et je sais que je dois respecter des temps, un peu comme au journal, et que dans cette contrainte, eh bien nous offrons cette liberté, et c'est ça qui
c'est
est
ça.
Beau.
C'est ça, cette liberté, et ce tout petit lien qu'on crée avec le téléspectateur, avec un sourire, un clin d'œil, une petite sortie de route, parce qu'en réalité, ça tient à pas grand-chose quand tout est à ce point écrit et prévu.
Mais le miracle, c'est que des choses se passent, effectivement, et qu'on sorte du cadre, et que le dialogue s'instaure. Parce que la beauté de la chose, et la difficulté aussi, c'est de ne pas enchaîner des prestations les unes après
c'est
les
ça.
Autres, mais de faire qu'il y ait un lien,
c'est
de
ça.
Faire que les gens se parlent. C'est ce que faisait
entre
Lang-Lang
et Angèle, Imani.
Et c'est ce qui s'est passé. Aurélie Dupont, qui a commencé sa carrière en faisant du piano, elle était tout à fait impressionnée d'avoir Lang Lang à côté d'elle. Et donc les choses se passent, les choses s'établissent.
Et en plus, vous avez eu le mauvais esprit d'Eddie Mitchell, alors avec
ça.
Ah
bah là, oui, bien sûr.
Merci beaucoup Claire Chazal d'avoir été l'invitée de l'Instant M ce matin. Le Grand Échiquier, c'est donc lundi sur France 3 à 21h.